Bonjour à tous. Alors, on est heureux d'être parmi vous ce dimanche. Et on est content de revoir ce qu'on connaît bien, qu'on a connu depuis donc 17 ans. Enfin, il y a 17 ans, quand on était étudiants, mon épouse et moi, on était étudiants là. Puis après, il y a 10 ans, juste après notre mariage, on avait pu remplacer Robert et Annie pendant leur voyage aux États-Unis. Et les années passent, et le Seigneur est toujours le même, il est bon, il est fidèle, et on est aussi reconnaissant pour vous, pour l'église de Pessac, qui priez pour nous, qui aussi nous soutenez dans le ministère, et nous voulons en profiter aussi pour vous remercier. Je vous invite maintenant à prendre la parole de Dieu, et nous voulons voir deux passages pour commencer, un dans 2 Chroniques, chapitre 18, 1 à 4. 2 Chroniques 18, 1 à 4. Lisons. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramoth en Galade. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade ?» Josaphat lui répondit, « Moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Un second passage ici dans le Nouveau Testament en 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6 au verset 14. 2 Corinthiens 6:14. Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Prions le Seigneur. Nous voulons te bénir ce matin de ce que nous pouvons encore ouvrir ta parole et aussi de cette grande liberté que nous avons encore aujourd'hui de le faire. Te prions que nous puissions garder cette liberté de plonger nos regards dans ta parole et même de la partager encore à nos concitoyens. Et nous te prions ce matin de parler à nos cœurs et que nous puissions bien disposer nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous dire. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. On voit donc ici deux passages. Un passage où l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens, est très clair. Il nous met en garde Et même, il nous dit de ne pas, hein, verset 14, ne vous mettez pas. Donc, il nous donne un ordre de ne pas nous mettre sous un joug étranger avec les infidèles. J'aimerais voir ce matin les alliances que nous contractons. Veillons à nos alliances et on verra au travers de la vie de Josaphat quelles alliances il va mener. Et en particulier pour nous mettre en garde sur les mauvaises alliances que nous pourrions être amenés à faire. Afin justement de les éviter. Tout au long de notre vie, nous avons et nous faisons des alliances. Certaines sont plus officielles et sont souvent faites avec une signature. On doit poser une signature, donner un engagement solennel devant des témoins. D'autres seront plus implicites, juste par une parole, par une discussion avec quelqu'un. Eh bien, par nos paroles, nous nous engageons. Nous faisons une alliance. Finalement, nous disons quelque chose qui nous lie par notre parole. Certaines de ces alliances nous engagent pour beaucoup de choses, même pour la vie, parlant de certaines alliances. D'autres ne nous lient que peu, hein, mais nous devons veiller à ces alliances que nous contractons. Or, en tant que chrétiens, nous sommes mis à part. C'est-à-dire, nous sommes appelés à nous sanctifier et à être mis à part pour le Seigneur, puisque nous sommes appelés les enfants de Dieu. Même nous sommes appelés les frères de Jésus, puisque dès lors nous sommes co-héritiers avec Christ. Et donc nous sommes, par alliance, liés avec Christ. Et nous ne pouvons donc pas avoir n'importe quelle alliance et pas avoir d'autres alliances, puisque l'alliance avec le Seigneur est exclusive. Ce que ça veut dire, elle est exclusive, c'est-à-dire elle va exclure d'autres alliances, et toute alliance inique, toute alliance avec ce monde. Ici, il est dit dans 2 Corinthiens, il dit « Sortez du milieu d'eux » au verset 17. « Et séparez-vous. » Donc, il montre vraiment la séparation qui doit se faire, dit le Seigneur. « Ne touchez pas à ceux qui sont impurs et je vous accueillerai. » Nous sommes appelés à vivre dans ce monde, mais pas comme ce monde. Mais des alliances peuvent risquer de nous lier trop et de nous faire tomber. D'où l'importance de nous séparer de l'esprit de ce monde et de toute alliance qui nous tiendrait liés avec ce monde et nous amènerait dès lors à faire des compromis. Alors j'aimerais qu'on ait deux choses en tête quand on réfléchit à ces alliances. C'est deux passages, un en 1 Corinthiens 5, verset 6, où il est dit « C'est bien à tort que vous vous glorifiez, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Parfois, on fait une alliance, on se lie par notre bouche, on dit « Oh, mais ça c'est juste, c'est pas grand-chose !» Ça ne va pas nous faire quitter notre église, ça ne va pas nous amener à pécher. C'est juste tout petit. Mais un peu de levain fait lever toute la pâte. Voilà. Ayons déjà cela en tête dans notre réflexion. Et puis, une deuxième, deuxième verset, c'est en 2 Pierre 2. Chapitre 1, verset 9. Alors dans ce passage, il nous invite à ajouter à notre foi eh bien, une quantité de choses, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, l'amour fraternel et l'amour. Et il dit au verset 9, « Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses péchés. » Pourquoi je prends ce verset, c'est cette expression « Il ne voit pas de loin. » C'est-à-dire, si on n'a pas toutes ces choses qui sont décrites ici, auxquelles on doit ajouter et grandir dans la foi avec notre Seigneur, si ces choses ne sont pas là, on va avoir une vue à court terme. Devant nos pieds, mais on ne va pas voir de loin. Et lorsque nous faisons des alliances, nous devons voir plus loin. Parfois, nous voyons nos avantages, mais sur le coup, à court terme. Mais ne voyons plus loin ce que le Seigneur nous demande, ce que ça va nous amener dans le service, et jusqu'où on va aller avec la perspective du ciel. Comment pourrons-nous rendre des comptes à Dieu? Enfin, nous aurons des comptes à rendre à Dieu, mais comment rendrons-nous compte de choses qui seraient contraires à Dieu? Avoir une vue à plus long terme. Et là, il dit, il a mis en oubli la purification de ses péchés, et du coup, il n'a pas veillé sur sa voie. Donc, un peu de levain fait lever toute la pâte et d'avoir une vue à long terme. Alors maintenant, nous allons revenir à notre passage dans les deux chroniques, et nous voulons voir la vie de Josaphat. Nous voyons que dans sa vie, il va faire plusieurs alliances. À plusieurs reprises, il va contracter des alliances qui ne sont pas approuvées de Dieu et vont avoir des conséquences importantes. Il est bon de noter que déjà son père, Asa, va lui-même contracter une alliance et il va refuser de se repentir. Et déjà, ça a une conséquence sur son fils, d'où l'importance nous-mêmes de ne pas reproduire ce que nos parents ont fait et de veiller à nous-mêmes nous tenir à l'écart des choses qu'on aurait vues. Parfois aussi, nous supportons certaines choses. Dit bon, on va supporter une certaine musique ou supporter de voir certains, d'aller dans un lieu où il y a des choses qui sont un peu ambiguës, des choses où il y a le péché, parce qu'on se croit assez fort, mais on embarque d'autres avec nous. Ça peut être nos enfants, ça peut être des amis, et peut-être nous sommes au clair par rapport à certaines choses, mais si nous ne nous tenons pas à l'écart, nous risquons de faire du mal à ceux qui nous accompagnent. Parce que, notamment, nos enfants subissent de plein fouet tout ce qu'ils pourraient nous entourer. D'où l'importance de notre intégrité devant Dieu. Mais aussi, il est répété plusieurs fois dans le Nouveau Testament, devant les hommes. Notre comportement, notre attitude, c'est devant Dieu et devant les hommes. Parfois, on se croit spirituel, on dit « Ah oui, mais Dieu, il voit mon cœur. Dieu, il connaît mon intégrité. » Oui, mais comment les hommes vous voient? Ah, mais les hommes, moi, j'ai de compte à rendre qu'à Dieu, disent-ils. Mais les hommes nous voient aussi. Et l'apôtre Paul veillait sans cesse à ce que sa conduite soit bonne envers Dieu, mais aussi devant les hommes. Notre comportement aura aussi des conséquences sur ceux qui nous entourent. Alors Josaphat va à trois reprises s'associer avec le roi d'Israël. Et nous savons combien, depuis la scission entre les deux tribus du sud et les 10 tribus du nord, il y a une animosité, mais surtout les 10 tribus du nord vont complètement arrêter d'adorer Dieu et vont se faire des idoles. Avant d'aller plus loin, il est important de noter que Josaphat n'est pas un mauvais roi. Il nous a dit beaucoup de bonnes choses à son encontre. Il a fait beaucoup de bien pour le peuple. Il a une grande volonté de chercher l'Éternel. Et puis, il a veillé à enlever toutes les idoles qu'il y avait dans son pays. On peut lire à ce titre 2 Chroniques, chapitre 17, les versets 3, il dit « L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David son père et qu'il ne chercha pas les Baals. Car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. » On dit beaucoup de bien de Josaphat. Et verset 6 encore. « Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. » Vous voyez combien Josaphat était un bon roi. J'aimerais déjà bien m'identifier à lui dans ce que nous venons de lire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Est-ce que nos cœurs grandissent dans les voies de l'Éternel? Mais on voit qu'il n'était pas à l'abri non plus de tomber, de contracter de mauvaises alliances. D'où nous-mêmes de veiller sur nous. Et pas de dire « Oh, mais moi je crains rien. Moi je suis ferme dans la foi. » N'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes, nous dit l'apôtre Paul. Ne disons pas « Cela ne m'arrivera pas, pas à moi. Moi je suis au clair avec tout ça. » Sachons que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Toute alliance contraire à Dieu, contraire à sa parole, est premièrement une désobéissance évidente à Dieu, puis elle est deuxièmement un acte non sans conséquences immédiates et futures. D'où l'importance de veiller à nos alliances, à nos paroles qui nous lient parfois. Et ces deux choses vont de pair, puisque Dieu nous donne pas des règles et des interdictions pour nous compliquer la vie. Parfois on dit « Oh, mais c'est... » Il y en a qui disent « Oh, mais c'est pénible, toutes ces lois de Dieu. » Mais c'est les lois de Dieu, elles sont là pour notre bien. Et si Dieu nous avertit, si Dieu nous donne des commandements, c'est pour notre bien. C'est comme avec les parents. Les parents, ils mettent des limites à leurs enfants. Pourquoi on met des limites aux enfants? Est-ce que c'est pour les embêter? Est-ce que c'est pour... oui, c'est pour leur mal? Bien sûr que non. C'est pour leur bien, parce que les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Eh bien, Dieu souhaite le meilleur pour nous-mêmes. Voyons donc la première alliance que Josaphat va contracter. Il nous est dit au verset 1 du chapitre 18. « Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. » Alors, si vous connaissez un peu Akab, c'était un des rois, un des pires rois. Enfin, ils étaient beaucoup... difficile de dire lequel était le pire, mais parce qu'ils étaient tous corrompus. Mais vraiment, Akab a fait des choses terribles. Et le prophète Élie a œuvré à ce moment et l'a averti à plusieurs reprises. Mais il a toujours continué plus loin dans le péché, et son épouse également, Jézabel. Donc on voit que eux ne marchaient pas du tout avec le Seigneur, ils marchaient dans des voies iniques. Pourtant, Josaphat va s'allier par mariage avec Akab. On va donc parler premièrement de l'alliance affective ou d'alliance familiale. Dans notre passage, eh bien, il s'agit que de lier par le mariage, donc ça veut dire que Josaphat va marier son fils avec la fille d'Akab. Et du coup, comme ils sont tous les deux, ils sont mariés ensemble, leurs enfants, Eh bien, de fait, les parents se trouvent liés ensemble. On voit donc ici l'alliance affective, alliance familiale, et notamment par le mariage, qui va donc lier deux familles ensemble. Vous savez combien les liens familiaux sont forts. Et je crois que dans la culture africaine, dans la culture asiatique, dans la culture européenne, dans toutes les cultures, la famille, les liens de la famille ont une grande importance. Ils ont certaines, suivant notre culture, il y a plusieurs particularités, mais les liens familiaux sont très forts. Et quand on est au Seigneur, quel lien doit-on privilégier ? Est-ce celui d'avec le Seigneur ou est-ce celui d'avec notre famille ? Alors je pense que vous avez la réponse, c'est avec le Seigneur. Après, le Seigneur va nous montrer comment agir vis-à-vis de notre famille. Malheureusement, des fois, l'alliance dans notre famille peut prendre le pas. C'est l'occasion donc de réfléchir à nos relations et à nos liens que nous avons familiaux, les alliances familiales qu'on a. Ici, les conséquences vont avoir une importance aussi énorme, puisque, bien sûr, le fils de Josaphat était celui qui était amené à devenir roi. Donc, on voit le fils de Josaphat, qui va être ensuite roi, va commencer à mal agir dans le peuple du Juda. Il a pour épouse la fille d'Akab. Et vous vous rappelez son nom, c'est Athalie. Et après, donc pour donner les noms, Joram, une fois qu'il va décéder, eh bien Athalie va se trouver la mère du roi. Et donc elle va jouer encore un rôle très important au sein de Juda. Et ça va amener la corruption dans Juda. Les conséquences vont être énormes. Et pas que pour, finalement, la famille, mais pour tout le pays, pour tout l'entourage. Regardez avec moi, on va juste voir quelques éléments. En 2 Chroniques 21, verset 1, Josaphat se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et Joram, son fils, régna à sa place. Et 2 Chroniques 21, verset 4, « Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères et quelques-uns aussi des chefs d'Israël. » Vous vous rendez compte, il commence déjà à tuer ses frères. Verset 5, « Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, il régna 8 ans à Jérusalem. » Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une femme d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire la maison de David à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours une lampe à lui et à ses fils. Donc on voit combien même les hommes sont infidèles, Dieu demeure fidèle. Et lui, il continue dans son alliance avec David. Ça, c'est aussi bienfaisant. Ça peut nous réconforter si toutefois nous avons fait une mauvaise alliance. Eh bien, nous pouvons demander grâce au Seigneur. Que le Seigneur nous rapproche, nous rétablisse la bonne alliance avec le Seigneur en premier lieu. Ainsi, pour nous aujourd'hui, nous sommes liés de fait avec notre famille dans la chair. Mais nous n'avons aucune obligation ni contrainte de quoi que ce soit. Sinon que le respect pour nos parents. Et un devoir de leur annoncer la parole de Dieu. Pour ceux qui ne seraient pas encore chrétiens. Malheureusement, on entend souvent, en France en tout cas, « Ah mais j'ai une réunion de famille, je ne vais pas pouvoir venir, je ne peux pas participer à la vie de l'Église parce que j'ai une réunion de famille. » Et il faut que j'y sois. Et finalement, notre relation familiale dans la chair va prendre le pas sur notre famille spirituelle. Parfois, notre absence brille plus que notre présence. Pourquoi je dis ça ? Parce que des fois, on en justifie. On dit « Ah, mais c'est pour leur annoncer le Seigneur, c'est pour être là, parce que... » Il faut quand même qu'on leur parle du Seigneur et tout ça, et qu'on leur montre. Mais des fois, notre absence est meilleure. Pour le témoignage. En France, le repas du dimanche midi est aussi très important. Et combien de fois je vois des chrétiens qui ne s'abstiennent de venir au culte parce qu'il y a le repas de midi, que ça soit chez eux ou qu'ils sont invités chez d'autres. Quelle priorité donnons-nous au Seigneur ? Veillons donc à ce que les coutumes, les habitudes familiales ne viennent pas supplanter notre marche avec le Seigneur. Pour revenir aux alliances, Dieu est formel que le croyant, l'enfant de Dieu, ne doit pas se marier avec un non-croyant, avec un adorateur d'idoles. On a lu dans 2 Corinthiens. Donc ça, c'est la question du mariage. Parfois, on est trop pressé de se marier ou on a trop peur de ne pas se marier puis on dit « Tant pis, je vais me marier avec un non-chrétien. » Mais c'est qu'on n'a pas une vue de loin. On se dit « Oh, ça va aller, il est sympathique !» Mais qu'est-ce qui va se passer dans les mois et dans les années qui suivent ? Veillons à appliquer ce que la parole de Dieu nous enseigne. Les Israélites devaient se marier, eux, entre eux. Et même plus précis, les Lévites devaient se marier avec des Lévites. Depuis notre conversion, nous sommes devenus enfants de Dieu et même sacrificateurs du Dieu vivant et vrai. Et en tant que sacrificateurs, c'est-à-dire ceux qui apportent, qui font en communion avec Dieu, qui sont là pour apporter l'adoration, nous avons besoin d'être ensemble dans le couple pour venir servir le Seigneur. Et si dans le couple, les deux ne sont pas chrétiens, comment on va pouvoir servir le Seigneur ? Comment on va pouvoir mener à bien ce rôle de sacrificateur pour Dieu ? C'est donc pour notre propre bien que le Seigneur l'enseigne et pour celui de nos enfants. Parce que une fois que les enfants arrivent, ça pose aussi beaucoup de problèmes. Alors on connaît l'exemple de Salomon. On peut tourner en 1 Roi 11. Enfin, le mauvais exemple, excusez-moi, je parle de l'exemple, mais du mauvais exemple de Salomon qui a eu pour femme plusieurs femmes qui avaient des idoles, qui adoraient des idoles. Et en 1 Roi chapitre 11, 1 Roi 11, verset 4, « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et là, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. » Donc on voit comment Salomon, il n'a pas tenu ferme. On voit que c'est à sa vieillesse. Donc pendant un moment, il a tenu. On pense qu'on va tenir. Mais à un moment, on va devenir plus faible. Et voilà. Voilà le désastre. Il commence à adorer des idoles. Ayons une vue de loin, à long terme, où ça va nous mener. Et puis Néhémie nous met en garde également. Il prendra le même exemple, hein, celui de Salomon. Mais tournons dans Néhémie pour voir l'implication sur les enfants. Néhémie 13, versets 23 et 24. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris pour femmes des Asdoniennes, des Ammonites et des Moabites. Donc il se rend compte, c'est bien, que les Israélites n'avaient pas appliqué la règle que Dieu avait donnée, c'était marier avec des personnes, des femmes des autres pays. Verset 24, la moitié de leurs fils parlaient l'Asdonien et ne savaient pas parler l'hébreu. Et ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. On parle souvent de la langue, notre langue maternelle. Et puisque les Israélites, les hommes, se mariaient avec des femmes qui n'étaient pas juives, eh bien, leurs enfants ne savaient plus parler l'hébreu. Parce que la mère a un grand rôle dans l'apprentissage du langage. Et elle va leur apprendre son propre langage. Mais c'est aussi spirituel. C'est qu'elle va leur apprendre aussi à adorer ce qu'elle, elle adore. Et d'ailleurs, puisqu'ils ne connaissent que cette langue, ils vont entendre que ceux qui adorent les idoles. Et ils ne connaissaient pas l'hébreu. Ils ne pouvaient pas entendre parler du Dieu des cieux. Donc on voit ici l'impact sur les enfants. Et versets 26 et 27... N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Voilà, je pense que ces passages sont très clairs. Sans parler donc des alliances signées, bon, les alliances signées telles que le mariage, où il y a même des témoins, il peut aussi y avoir des affections. Des affections qui soient trop proches, des amitiés que nous avons avec telle ou telle personne, enfin des non-croyants, et qui vont nous éloigner de Dieu et de l'obéissance à ce qu'il nous enseigne. On doit donc veiller à nos fréquentations et à notre amitié. Parce que si notre amitié est trop forte, il y a un moment où on va être entraîné par cette amitié. Que ça soit par un repas, que ça soit par un service qu'il va donner, puis on va se sentir, au fil du temps, obligé de passer du temps avec ces personnes. Et ça va finalement nous lier. Et au lieu de passer du temps avec nos frères et sœurs dans l'église, au lieu de servir le Seigneur, on va être happé par les choses de ce monde. Dans nos relations, soyons donc clairs, que ce soit dans nos relations familiales ou dans l'amitié que nous avons, portons le témoignage de Jésus-Christ et n'admettons aucun compromis par soi-disant amour dans nos relations familiales ou amicales. Quand on porte un témoignage clair de Jésus-Christ, ça va mettre des limites. Si les personnes sont opposées à Jésus-Christ, bien finalement, elles-mêmes vont mettre des limites et vont s'éloigner de nous. D'où l'importance de nous-mêmes d'avoir un témoignage de Jésus-Christ. Et ça clarifiera nos relations. Deuxième alliance que Josaphat va contracter, regardez avec moi en 2 Chroniques, chapitre 18. Donc on l'a lu dans ce passage, au début du chapitre 18. Au bout de quelques années, bien, il va voir Akab, tout naturellement, puisque maintenant c'est le père de sa belle-fille. Et donc il va leur rendre visite. Et en passant du temps avec eux, il dit, ben, pourquoi on ne va pas mener un combat ensemble? Et c'est ce qu'il lui propose. Allons donc à Galaad, à Ramoth en Galaad, pour mener un combat contre l'ennemi. Et contre l'ennemi commun. Ils avaient donc possibilité de unir leurs forces pour combattre leur ennemi. On voit donc ici une alliance politique pour un combat. Et parfois, nous pourrions faire une alliance morale, une alliance parce qu'on a les mêmes idées, parce qu'on a les mêmes combats, nous allier avec des non-chrétiens. On va voir un peu plus de détails par la suite. Mais on voit ici que par la proximité qu'avait Josaphat avec Akab, eh bien, ils vont se joindre pour combattre le roi de Syrie. Qu'y a-t-il de mal, pourrait-on se poser comme question? Est-ce que c'est mal on a un ennemi commun, on va, les Syriens en plus, on va s'unir tous ensemble et puis on va combattre ensemble. Mais Jéhu, le prophète, au chapitre 19, va aller voir Josaphat et va dire ce que Dieu en pense de cela. Relisez avec moi en 2 Chroniques, chapitre 19. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans la maison de Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et lui dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ?» À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. On voit donc ici par le biais du prophète Jéhu, Dieu va montrer clairement ce qu'il pense de l'alliance qu'il avait contractée vis-à-vis avec Akab et qui a mené une grande défaite. Lui, il est revenu en paix, mais Akab, lui, il est mort pendant l'attaque. Hein, mais il y a eu une grande défaite. Ils avaient donc une guerre commune. Pourquoi ne pas la mener ensemble? Se demande des fois, parfois, nous-mêmes, on peut se demander si on est plusieurs. Pourquoi ne pas mener le combat ensemble? La réponse aurait dû être évidente pour Josaphat. Parce que Josaphat, quand il va demander à Akab de consulter l'Éternel, eh bien, Akab lui dit, « Oh non, on va pas consulter le prophète, Miché, parce que il m'annonce que du mal. » Et donc, il ne voulait pas demander l'aval de l'Éternel. Déjà, cela aurait suffi. Est-ce que ceux avec qui on se lie, est-ce qu'on peut prier avec eux? Est-ce qu'on peut partager la parole de Dieu ensemble? Ou est-ce que déjà, ce n'est pas possible? Est-ce que déjà, ces personnes n'étant pas chrétiennes ou bien ayant des différences telle qu'on n'est même plus d'accord par rapport à l'interprétation de la parole de Dieu et qui nous empêcherait de demander la bénédiction du Seigneur. Donc, quand bien même les guerres sont identiques, c'est le moyen qui est différent, le moyen de mener la guerre qui sera différente. Plus tard, Josaphat va avoir une grande victoire qui nous est rapportée au chapitre 20. Qu'il va une bataille qu'il va mener tout seul, mais avec Dieu, parce qu'il va solliciter sincèrement Dieu et va lui faire confiance. Il va donc avoir une grande victoire, du moins c'est plutôt Dieu qui a une grande victoire dans cette bataille, puisque les adversaires de Josaphat vont s'entretuer et lui va arriver sur le champ de bataille et le travail sera déjà fait. Parce que Dieu avait combattu pour lui. En ce moment, on a plusieurs combats dans notre pays. Et vous avez des combats, vous-même, personnellement. Mais ne cherchons pas à nous allier avec le monde pour les mener. Nous avons des combats face aux mœurs, aujourd'hui, qui s'étiolent. Face à l'éthique, qui est bafouée. À l'éducation, qui est de plus en plus contre-éducative, ou même manipulatrice. Et bien d'autres combats qu'on a à mener. Doit-on nous se lier avec toutes les associations, parce qu'il existe des associations, je parle ici de la France en tout cas, eh bien, qui sont clairvoyantes sur certains sujets moraux, sur certains sujets éducatifs, sur certains, et donc vont essayer de mener le combat. Mais ce n'est pas à nous de nous allier avec ces associations pour mener le combat. Car en tant qu'Église et en tant que croyants, nous savons que le combat, ce n'est pas la manière dont ils vont le faire, mais notre combat, nous voulons le faire, le combattre spirituellement. C'est en annonçant l'Évangile qu'on pourra obtenir le changement des cœurs. On voit beaucoup de pétitions, de manifestations et bien d'autres moyens que le monde va utiliser pour changer le monde, va essayer de le changer. Mais nous, nous voulons utiliser l'Évangile du Seigneur. Car même si les moyens humains réussissaient pour changer les choses, le cœur de l'être humain ne serait pas changé. Et l'avenir final ne changerait pas pour toutes ces personnes. J'ai un exemple d'un ami qui revenait de Suède. Ça peut être un peu changé déjà depuis 10 ans, mais il revenait de Suède et il était époustouflé, enfin il était vraiment agréablement surpris de la Suède, parce qu'il dit, mais vraiment, les gens sont sympathiques. Ils sont accueillants. Et puis, il y a une morale qui est relativement bonne. Enfin, ils voyaient beaucoup de bonnes choses dans ce pays. Parce que leur culture protestante l'a amené à avoir une morale qui se rapproche de la Bible. Mais il était aussi bien triste. Parce qu'il s'était rendu compte, en essayant de parler aux Suédois de Jésus-Christ, que c'était encore plus difficile de leur annoncer Jésus-Christ qu'en France. Parce qu'il y avait la propre justice. Leur morale, leur manière, leur accueil, voilà, ils se sentaient tellement bons qu'il n'arrivait pas à les convaincre de pécher. Donc c'est pas par des moyen humain qu'on pourra changer ce monde, mais c'est grâce au Seigneur et à sa parole. Aujourd'hui, nous voyons l'écuménisme. L'écuménisme, c'est le moyen on essaie de rassembler. De rassembler les personnes sous, j'ai envie de dire, le plus petit dénominateur commun. Bon, ben on croit tous en Dieu, alors rassemblons-nous. Et on voit donc des rassemblements entre musulmans, juifs, chrétiens. On croit tous au même Dieu. Voilà, le plus petit dénominateur commun, c'est vraiment le plus petit. Hein. Et certains se rassemblent sous cela. D'autres, c'est juste, on va rassembler tous les protestants. Tous ceux qui se réclament du protestant. Et même, un peu plus, tous les évangéliques. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont contre la parole de Dieu. Et on commence à faire des alliances qui sont bien délicates. On m'avait invité, là, il y a 15 jours, à me rencontrer avec les pasteurs de Limoges. J'avais fait une rencontre comme celle-ci il y a environ 6 ans. J'avais été juste une fois, j'ai dit pour me présenter, et puis pour les connaître, mais j'avais dit, j'avais été très clair, on fera rien ensemble parce qu'il y a trop de choses qui nous séparent. Et puis, il y a 15 jours, on m'avait invité à nouveau. Eh bien, c'était l'occasion à nouveau de refaire connaissance parce que ça a changé. Et puis, bon, il parlait des 500 ans de Luther. Alors, je m'y suis rendu et là encore, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, c'était pas possible de s'unir. Parce que, finalement, on n'annonçait plus le salut. On n'annonçait plus la nécessité de nous repentir. Et donc, on ne peut pas lier des alliances n'importe comment, avec n'importe qui. Parfois, sous couvert d'unité, voilà, on veut être unis. Ou sous couvert d'amour. Ou par prétexte de vouloir témoigner aux non-croyants. Eh bien, on veut montrer cette unité, mais finalement, on n'est pas si unis du tout. Et même si le combat est similaire, c'est-à-dire qu'on veut amener des personnes à Jésus-Christ, les moyens ne sont pas les mêmes. Nous ne cherchons pas à vivre dans un monde meilleur, mais nous souhaitons voir des vies transformées, bouleversées par Jésus-Christ pour l'éternité. Évidemment, si le monde est... Il n'y a pas de persécution, si on a une grande liberté, on apprécie. Mais ce n'est pas ça qu'on doit rechercher. Ce que nous voulons rechercher, c'est les vies transformées. Notre combat n'est pas un combat à la superficielle, mais celui du Seigneur qui veut œuvrer dans nos cœurs. Le vrai combat est spirituel, et donc il ne peut être mené que spirituellement. Troisième alliance que nous voyons au travers de la vie de Josaphat, c'est en 2 Chroniques, chapitre 20, 35 à 37. Akab donc est mort, donc c'est son fils qui prend la relève et il va trouver moyen encore de lier, de faire une alliance avec le successeur qui se retrouvait être le frère de sa belle-fille, du coup. Et nous voyons au verset 35, « Après cela, Josaphat, roi de Juda, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, dont la conduite était impie. » Vous voyez, il nous parle de sa conduite. 2 Chroniques 20, verset 36 maintenant. Il s'associa avec lui pour construire des navires destinés à aller à Tarsis. Et ils firent les navires à Éjon-Guéber. Alors Éliézer, fils de Dodova, de Maréchal, prophétisa contre Josaphat et dit « Parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre. » Et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. On voit donc ici, il est question d'une alliance économique. Ils avaient l'intention de faire profit avec ces navires pour du commerce. Et donc ils se sont alliés. Ils veulent dire, on va s'allier, on va construire ensemble des bateaux. Mais là encore, Dieu n'approuve pas de telles alliances. Josaphat est à nouveau repris par un prophète qui ici donc va prophétiser, non pas sur sa gestion économique, il avait le droit de faire du commerce, mais sur son alliance avec Akazia, dont la conduite était impie. C'est important de regarder la conduite de ceux avec qui nous nous allions. Parfois, certains se disent « Mais moi, je me suis marié avec quelqu'un de l'Église. » Mais est-ce que vous avez examiné leur conduite? Parce que ce n'est pas parce que la personne vient à l'Église, vient au culte les dimanches, que Dieu approuvera cette alliance. Nous devons aussi voir leur conduite. Là, revenons maintenant à l'alliance plutôt économique dont il est question. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit. On a besoin de l'aspect économique, l'aspect financier et un aspect réel dans notre vie. Mais ne cherchons pas à acquérir des biens en nous associant avec des impies. Je connais un chrétien, il avait une entreprise d'électricité. Une petite familiale, une petite entreprise d'électricité et ça marchait bien. Et il a rencontré quelqu'un qui a dit « je vais m'associer avec toi et on va faire fructifier ton affaire ». Mais lui, il avait l'appât du gain. Et il voulait profiter et essayer. Et finalement, il n'avait aucun sens de l'entreprise et du travail, surtout. Et très vite, l'entreprise a coulé. Et ce frère s'est retrouvé dans des dettes. L'autre, qui s'était associé, ils avaient bien veillé à ne pas être solvables. Et donc, il n'a eu rien à rembourser. Et c'est sur ce frère que tout est retombé. Veillons avec qui nous associons, que ce soit dans le travail, que ce soit dans chacune situation de notre vie. Restons humbles, restons dans les choses simples. Il avait une toute petite entreprise qui fonctionnait, ça lui permettait de travailler et de vivre. Pourquoi vouloir toujours plus? Mais dans le monde où nous sommes, c'est ce qu'on nous fait croire, on veut toujours nous faire croire qu'on aura plus, et que c'est important, il faut avoir une croissance socialement, financièrement, et où en êtes-vous dans votre avancement de carrière, etc. Mais ça peut être très dangereux dans notre vie. Et là, peut-être, il y a plusieurs étudiants, vous êtes plusieurs étudiants, et je me rappelle quand j'étais étudiant, avant de connaître le Seigneur, puisque j'ai connu le Seigneur pendant que je faisais mes études. Mais avant déjà de commencer mes études, j'étais en train de... On discutait de combien on allait gagner après nos études. Voilà le début de notre salaire. Et puis après, combien ça... Voilà, on était en train de discuter de tout cela. Mais ça ne doit pas être l'objectif du chrétien. L'objectif du chrétien des études, eh bien, c'est de pouvoir travailler pour pouvoir gagner sa vie honnêtement, comme la Bible nous l'enseigne. Après, si le Seigneur fait prospérer et nous permet... Et bien que ça marche bien comme il a fait prospérer ses serviteurs, tant mieux. Mais c'est pas ça que nous recherchons. Là encore, sachons nous contenter de ce que nous avons et veillons à ne pas prendre d'engagement qui nous lierait avec des non-croyants. Hébreux 13:5 nous rappelle un beau verset sur le contentement. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Voilà. Et il dit, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. On voit que le Seigneur nous appelle non pas à faire des plans sur les comètes, mais à nous confier dans le Seigneur qui lui pourvoira. Pourvoira à nos besoins, pourvoira un travail, pourvoira à ce qu'il nous faudra pour vivre. Et en lisant en ce moment dans les Proverbes, je vais juste vous lire quelques citations des Proverbes. On voit combien il nous dit à plusieurs reprises de nous contenter de ce que nous avons et même de savoir vivre avec peu. Je vous lis Proverbe 15, versets 16 et 17. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Vaut mieux manger de l'herbe. Vous voyez que de la bonne viande, un bœuf bien engraissé, s'il n'y a pas d'amour, ou s'il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Voilà ce qu'on doit privilégier. Juste encore d'autres citations en Proverbes 16, 8 et 19. Il dit « Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. 17.1. Mieux vaut peu. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Donc à chaque fois, ce qu'on doit privilégier, c'est la question de la morale, de la paix, de la crainte de l'Éternel, de l'amour. 19.1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Mieux vaut peu. Je trouve intéressante plusieurs des références où les mieux vaut peu que des choses, mais alors avec accompagné, peut-être beaucoup, mais accompagné avec bien des problèmes. Que le Seigneur nous donne de toujours avoir sous les yeux le coût du rachat, de notre rachat pour nos péchés. Le coût de celui de la mort de Jésus-Christ. Parce que c'est grâce à la mort de Jésus-Christ que Dieu a fait alliance avec nous. La nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est celle que nous rappelons aussi en partageant le pain et le vin. C'est la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance en Jésus-Christ. Mais pour cela, n'oublions pas, ayons les regards sur ce que Christ a accompli. Oui, c'est par sa grâce que nous pouvons marcher avec lui. Et qu'ainsi nous nous contentions de cette alliance de notre vie avec le Seigneur. Et surtout de privilégier cette alliance avec le Dieu de l'univers qui aura son apogée bientôt lorsqu'on sera dans sa présence. Si donc ce matin, vous ne pouvez pas dire que le Seigneur Jésus-Christ est votre sauveur, lui en qui nous pouvons avoir la paix avec Dieu, le pardon de nos péchés, eh bien c'est à lui que vous devez aller. Parce que c'est avec Jésus-Christ que nous pouvons, grâce à Jésus-Christ, que nous pouvons sceller cette alliance avec Dieu. Et si nous sommes maintenant chrétiens et que nous sommes au Seigneur, eh bien c'est cette communion avec Dieu que nous voulons développer. Et veiller à ce que rien ne vienne assombrir cette relation avec quelques alliances que nous pourrions contracter. Que le Seigneur nous garde, nous protège et nous donne de pouvoir nous rappeler deux choses. Un peu de levain fait lever toute la pâte et de voir de loin, avoir les choses de loin que le